France Inter.
Dans la nature, tout est recyclé.
CO2, mon amour.
Jean-Henri Fabre, quand il parle effectivement de l'écosystème naturel, il insiste beaucoup sur ce phénomène que c'est une grande mutuelle où tout le monde cotise de sa vie.
Denis Chessou.
Et tous les corps vivants en fin de vie sont dégradés par une multitude de choses qu'on ne voit pas, qui sont des bactéries, des microbactéries. C'est pour ça qu'il faut conserver la chimie des sols naturels, qui vont dégrader la matière organique en sels minéraux. Et ces sels minéraux serviront à la production primaire, c'est-à-dire au développement des plantes. Et c'est un cycle. La nature est un exemple parfait d'économie circulaire.
Sur France Inter.
Pas de doute, c'est bien CO2 mon amour, cette fois-ci avec la voix de Jean-Louis Etienne, la nature qui chuchote à vos oreilles. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir avec Thomas Langlin aujourd'hui à la technique. Et c'est Camille Blanès qui a tout fait. Ah oui, tout, seulement dans cette émission, et donc elle réalise et colorise cette émission. Avec une petite humeur, mercredi, il y avait un petit soleil, d'abord très timide. Il faisait bien frais sur le vélo à 8h30 en partant de Cahors sur cette route qui méandre comme le Lot, cherchant à l'épouser. Mais la rivière la tenait malgré tout à distance. « Je suis un chemin d'eau et toi tu es ruban de bitume. Mais d'accord pour t'approcher afin de m'admirer, dit le Lot. » Et puis le soleil grimpa deux ou trois échelons sur les barreaux du ciel et se mit à boire non pas le Malbec des vignes du vin de Cahors, mais à boire, à aspirer la brume de fond de vallée blottie durant la nuit. Les maisons de calcaire allant du blanc au jaune selon les carrières, les clochers à peigne des églises alors sont apparus. Et 40 kilomètres plus loin, j'ai eu le plaisir de frapper à la porte d'un philosophe, anthropologue et de son épouse, Philippe et Anne-Christine Descola. Amoureux du Lot, de cette bourriane depuis l'âge de 10 ans. Ce Lot aiguisera donc la curiosité enfantine de Descola, son goût de la nature. Alors les Indiens Achuar d'Amazonie forgeront sa réflexion anthropologique. Ah oui, nous sommes nature, ce mot que nous, humains, nous avons inventé pour nous séparer d'elle. Les non-humains et les humains doivent aujourd'hui se retrouver s'ils veulent être sauvés et créer un avenir commun, sinon la Terre se videra gentiment de nous. Et après la chance donc de cette rencontre, repartir en pédalant vers la rivière, puis une gare pour un nouveau départ. Se laver la tête des infos en allant rêvasser au bord de l'eau, c'est-à-dire ces moments essentiels où on n'est pas productif, c'est génial. Profiter du vent doux, du milieu d'après-midi, pour ouvrir les yeux sur les collines, les puèches. On se dit, il va se passer quelque chose. Mais oui, toujours dans la nature. Quand oiseaux il y a, ils vont par deux. Le merle noir court après sa merlette, comme la mésange après sa mésangette. Et le père Valentin est-il passé par là? Mais oui, mais comment vous savez que c'est monsieur Mésange qui harcèle gentiment madame? Et parce que monsieur Mésange arbore une énorme cravate noire qui descend jusqu'en dessous de ses pattes et que madame en a une aussi, mais toute riquiqui, genre fidèle de string. Et à côté, la Mésange bleue aussi fait ses affaires et repère tous les trous que vous lui avez laissés. Les tourterelles turques roucoulent en bisbille avec les moineaux sous les toits. Quelques parades de ramiers dessinent des festons au-dessus des arbres encore nus. Et là, qu'est-ce que je vois? Trois papillons en avance. Aïe, 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 trois vulcains. Eh oui, trop tôt, disent les arboriculteurs, les viticulteurs, inquiets pour leurs bourgeons qui peuvent s'engeler n'importe quand. Et là, un bolide, le simple plongeur vient de remonter un bout du Lot ou de votre rivière. La vie est juste, jolie, au bord de l'eau, si rare. Alors, oui, je suis, vous êtes, rivière, champ, arbre, mésange. Oui, se relie à la nature dont nous sommes tous issus. Elle vit pour elle, pas forcément pour nous servir. Le 17 et le 24 mars, vous écouterez Philippe Descola au Collège de la Vie, plus qu'au Collège de France, dans ce Lot. Je referme ce carnet de route et je vous emmène plus au sud-est, dans ce très beau Vaucluse, pour rencontrer Jean-Henri Fabre, notre Virgile des insectes, nous attend à Larmas. Et lui aussi, comme Descola, savait qu'il faisait partie de la nature, sans vouloir la dominer, sans vivre hors sol.
But the
bah oui, évidemment, toujours bien. Nora Jones sur France Inter, choisi par Thierry Dupin. Et après Vinci, Colette, Van Gogh, Giono, Rosa Bonheur et la nature, et Monsieur Fabre et la nature.
Alors, on est en Provence, et là, on se trouve sur une terrasse qui est attenante à la maison, à l'ombre de deux grands platanes, et au seuil d'un merveilleux jardin conçu par Jean-Henri Fabre. Il va ici, arriver ici à 56 ans. Il va y passer les 36 dernières années de sa vie. Ouais. Et quand il va arriver, la première chose qu'il va faire, ça va être de rehausser les murs de son jardin. Parce que son idée, c'est d'être tranquille ici pour s'adonner à son passe-temps favori qui est l'observation des insectes. Jean-Henri Fabre a un esprit très ouvert et il adore toutes ces plantes horticoles venues du monde entier. Et du coup, il va composer son jardin avec différentes espèces. Et l'idée, c'est d'en faire un paradis. Donc un paradis pour les hommes, avec un jardin d'ornements et des plantes venues du monde entier. Donc c'est là où nous nous trouvons, ouais. Avec un joli bassin auquel on accède par 5 marches. Et puis une partie beaucoup plus sauvage, dans laquelle on va observer les insectes.
Oh là, Monsieur Fabre, où êtes-vous? Je vois son chapeau. Décembre 1823, il naît à Saint-Léon, dans le Rouergue, dans l'Aveyron. Et quand même, on peut dire que la fréquentation de la nature non chimisée, ça conserve, puisqu'il meurt à 92 ans en 1915. Fabre, donc homme de science, humaniste, naturaliste, entomologiste, écrivain, poète français de langue occitane, adulé au Japon, un des précurseurs de l'éthologie, donc la science du comportement animal, et de l'écophysiologie. Alors, Fabre est quand même considéré comme le modèle accompli de l'homme de science et de l'homme de lettres réuni, mondialement connu, traduit pour ses souvenirs entomologiques. Alors, nous sommes dans une super propriété à 8 km d'Orange, hein, donc dans ce beau département du Vaucluse, sur une terre non cultivée, qu'il nomme l'Armas, à la sortie du village de Sérignan-du-Comtat. Il va pouvoir enfin, dans cette nouvelle demeure, se consacrer à son rêve de toujours, l'observation des insectes, et faire de l'Armas à Sérignan le premier laboratoire vivant de la nature et de l'entomologie. Isabelle Glaise, c'est elle qui nous accompagne. Isabelle Glaise est directrice des jardins botaniques du Muséum national d'histoire naturelle. Alors, il y avait de la cigale. Alors, c'est un petit peu compliqué de leur demander de la mettre en veilleuse durant l'enregistrement. C'est comme ça. Bon. L'œil toujours en éveil sur la bête et sur la plante. Il avait 6 ans, Fabre. Il allait à la fleur, il allait à l'insecte. Mais est-ce qu'il a été initié? Comment est née, en fait, sa vocation?
Alors, c'est une curiosité très personnelle. C'est vrai qu'il est très complice de sa grand-mère, qui lui raconte beaucoup d'histoires, qui lui montre les choses de la nature, et voilà, qui lui donne peut-être un peu de ce goût-là. Mais c'est un enfant extrêmement curieux, extrêmement perspicace, qui se pose beaucoup de questions, et surtout, qui observe et qui cherche à comprendre.
Et alors après, donc, avant d'en faire, j'allais presque dire son métier de naturaliste, il y a quand même toute son histoire d'enseignant. C'est-à-dire que le fil de sa vie, c'est quand même l'enseignement. Il va arriver donc pas très loin d'ici, il va arriver à Avignon, donc il aura 19 ans, donc à l'école normale supérieure, et puis il va se mettre à enseigner, quoi. Mais il a quand même eu déjà des pérégrinations avant, hein. Il a fallu qu'il travaille aussi.
Oui, donc il travaille très jeune, il va même devoir vendre des citrons sur des marchés.
À Beaucaire.
Et donc c'est vrai qu'à 19 ans, il a son diplôme d'instituteur et il est envoyé à Carpentras, là où il va rencontrer sa première épouse. Et il a vraiment la passion d'enseigner, d'éclairer. Et au départ, c'est dans des conditions assez difficiles. Et il va continuer de se former lui-même, de passer 2 baccalauréats, 2 licences, ce qui lui permettra d'accéder à un enseignement secondaire.
Alors là, on sent bien qu'il y a une espèce de ligne de démarcation ou une frontière.
Oui, donc en fait, c'est un jardin qui est extrêmement structuré. Et là, on a une haie de lauriertin. Ouais. Et on va passer d'un espace très soigné à un espace beaucoup plus sauvage. Et là, on entre dans la partie d'observation expérimentale de Jean-Henri Fabre, son laboratoire de plein air, qu'on appelle l'Armas. Donc là, on a...
Donc la friche. Hein.
La friche savante. Et du coup, avec une garrigue, avec des végétaux locaux. Et puis là, un autre observatoire qui est... qu'on appelle un pourrissoir.
Oui, parce qu'en fait, il s'intéressait aux insectes nécrophages, donc qui se nourrissent de cadavres. Et alors, ça lui servait à ça.
Oui, donc c'est une sorte de gamelle suspendue, ouais, dans laquelle on mettait des cadavres de petits, voilà, rongeurs. Et ça lui permettait d'observer les animaux. Donc, il donnait un sou aux enfants du village, ouais, pour avoir de quoi alimenter ces insectes.
Ah, d'accord.
Voilà, là, on est plus dans une partie beaucoup plus ouais, provençale. Ouais. Mais en même temps, il faut se dire que tout ça a été installé par Fabre et ses successeurs. Ici, c'était une terre à vigne extrêmement caillouteuse. Et du coup, c'est à force d'apport de matière organique, de plantation, de prélèvement dans les collines avoisinantes que Fabre arrive à recréer ce paradis pour les insectes.
D'accord.
Et notamment, Sérignan du Comtat, c'est un endroit idéal parce qu'on est à la fois au pied des monts de Luchaud, mmh, donc avec une forêt méditerranéenne, avec de l'arbousier, et puis on a la vallée de l'Aigue avec quelque chose de beaucoup plus garrigue, caillouteux. Et donc, il va faire ses prélèvements dans la nature, il ramène tout ça ici, et comme ça, il a son observatoire sur place.
Ah, alors là, une jolie petite boîte, c'est le nid d'abeilles.
Donc c'est un observatoire d'abeilles solitaires, oui, qui s'appelle les osmies. Et donc, cette abeille pond dans des tiges creuses. Mmh. Et donc, Fabre était très intéressé par ce système de ponte avec des œufs mâles, des œufs femelles. Donc, il invente une sorte d'observatoire. Ce sont plein de petits tubes creux, mmh, donc qui permettaient d'accueillir les pontes. Et ensuite, il récupérait les pontes et il les remettait dans des tubes en verre pour étudier dans son laboratoire.
On ouvre. Ouh, ben y a du monde là-dedans. Ben oui. Voilà, donc tous les petits tubes. Alors, les tubes, c'est du bambou. Hein. Et hop, après, et ben, les bêtes sont dedans. Ah oui, ça rentre, ça sort. Très bien. Merci les osmies, parce que vous faites un boulot de pollinisation. On parle sans arrêt de l'Apis mellifera. Mais c'est surtout tous les pollinisateurs sauvages, les abeilles sauvages qui sont à peu près 1000 différentes, qui font aussi un sacré travail. On va rentrer dans la maison. Allez, hop. Frapper pour entrer. Hop là. Tout de suite, c'est mieux. Ah bah, je rentre directement dans la salle à manger. Il y a eu des personnes incroyables. Ils sont venus donc ici visiter, comme on disait, Jean-Henri Fabre.
Oui, alors le plus incroyable, c'est sans doute de se dire qu'ici est venu un président de la République, Raymond Poincaré, ouais, ouais, avant la fin de vie de Jean-Henri Fabre, qui est venu lui rendre une visite d'hommage.
Ouais, ouais.
Et sachant que Jean-Henri Fabre avait eu le privilège de rencontrer Napoléon III aux Tuileries, puisqu'à l'initiative d'Urbi, il a été décoré de la Légion d'honneur. Et il avait eu aussi une offre d'emploi par Napoléon III, qui souhaitait que Fabre soit le précepteur de son enfant, le prince impérial. Mais Fabre a décliné, préférant sa famille, la Provence et ses cigales.
C'est pas mal. Alors, lorsque l'on parle de Jean-Henri Fabre, il ne faut quand même pas imaginer que tout a été facile. C'est-à-dire qu'il a couru, et donc après l'argent, très régulièrement tout au long de sa vie. C'est-à-dire qu'il avait son salaire d'instituteur, après il a été professeur, etc. Mais ce n'était pas simple. Hein.
Non, ce n'était pas simple, et d'autant plus à 46 ans, il est radié du professorat. Et du coup, il a eu 9 années d'errance. Pendant ces 9 années, il a vécu des royalties de ses livres avant d'arriver ici à Sérignan du Comtat en 1879.
Alors, heureusement, il a quand même très bien gagné sa vie, donc en écrivant à la fois des livres pour les enfants, des livres pédagogiques aussi, des livres d'enseignement. Ça a très bien tourné, ça.
Oui, il a écrit tout ça, et puis ensuite, à Sérignan, il a commencé à rédiger ses souvenirs entomologiques.
Faire son best-seller, quoi.
Son best-seller, ah, traduit oui, dans le monde entier.
Oui, oui, traduit dans le monde entier. Alors, on n'a pas vu là forcément de japonais aujourd'hui, mais alors au Japon, il est adulé. Chez nous, à côté, quasiment, on ne le connaît pas. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que c'est incroyable.
Oui, donc il est vraiment très populaire au Japon. Il est enseigné aux jeunes enfants.
Dès l'école primaire, hein.
Dès l'école primaire. Ouais. Là, on a fait la restauration de l'armasse. Et en fait, la télévision japonaise est restée une semaine pour filmer la fin des travaux et produire un documentaire
sur Jean-Henri Favre.
Alors, il y a un rapport évidemment à la nature extrêmement étroit entre les Japonais, les arbres, etc. Mais qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? C'est parce qu'il y a de la poésie aussi, c'est quoi?
Alors, il y a cette part de poésie. Et il y a aussi le fait que pour eux, Jean-Henri Fable a révélé un mini-monde vivant. Et ça a été quelque chose de très important pour eux. Alors peut-être qu'ils ont plus le sens du détail que nous, ce sens de l'observation très fin. Et voilà, c'est vraiment ce mini-monde vivant.
D'accord.
Ça, c'est une chenille de papillon lune, tu vois. Elle va tisser sa nymphe et rentrer dans sa crie.
Chrysanthème ?
Non, chrysalide. Mais qu'est-ce qu'on t'apprend à l'école, hein ? Et autour de la chrysalide, il y a le cocon. Tiens, regarde, voilà. Ça, c'est un cocon. Et dans une dizaine de jours, ce sera un papillon.
Ce truc horrible, un papillon ?
Ah oui, oui.
Isabelle, alors là nous avons, j'allais dire presque une cloche à fromage, hein, donc en grillage, une immense coupelle, et alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a ?
Alors à l'intérieur, on a des papillons,
ouais.
Donc c'est effectivement une cloche à fromage, et c'est avec ça que Jean-Henri Fable faisait des observations,
ouais.
Parce que les papillons qui s'y trouvaient pouvaient respirer, et une fois, Jean-Henri Fable récupère une chrysalide, d'un papillon qui s'appelle le grand paon.
Mmh.
Il la met sous cette cloche pour l'observer. Et dans la nuit, la maisonnée est réveillée. Dans la chambre de son fils, il y a des papillons qui sont rentrés en masse. Et donc, du coup, tout le monde se lève. On arrive dans cette pièce et ici, il y a plein de papillons. Donc, tout le monde est très intrigué. Pourquoi ces papillons sont arrivés? Pourquoi est-ce qu'ils sont autour de la cloche à fromage dans laquelle la chrysalide est devenue papillon?
Ouais.
Et donc, Fab observe, la chrysalide est une femelle, et ceux qui sont arrivés ici sont des mâles. Du coup, il se pose la question, comment est-ce que les papillons sont arrivés? Comment est-ce qu'ils ont été informés? Donc, j'ai dit que c'était le soir, donc c'est pas par la vue, c'est pas par le son, puisque c'est silencieux. Donc, il fait des tas d'hypothèses, il supprime les antennes des papillons, ça va durer pendant plusieurs étés. Et finalement, il va dire, je pense que le papillon femelle émet une odeur qui va attirer les papillons alentour.
Mais on ne le savait pas à l'époque.
Et on ne savait pas à l'époque, c'est ce qu'on appelle les phéromones, qui ont, dans les années 50, été démontrés moléculairement. Donc c'est pour dire qu'avec un observatoire très simple, du coup, on arrive à démontrer
un moyen de communication entre les papillons, filles et garçons.
Voilà, c'est ça.
C'est ça. Ah, une autre pièce, et là, on voit sa boîte de couleurs, on voit son grand sac en cuir, et donc, évidemment que la photo, c'était pas exactement ça à l'époque, et c'était un sacré aquarelliste, hein. Donc, là aussi autodidacte.
Là aussi, tout à fait. Il a envie de conserver les champignons, on ne peut pas les presser comme les fleurs dans un herbier, donc il se dit que la solution, c'est peut-être de les dessiner, et que du coup l'aquarelle c'est l'idéal, et donc en autodidacte il se met à l'aquarelle,
ouais.
Et il va produire à partir de l'âge de 62 ans 600 planches de champignons différents. Donc les planches sont extrêmement composées et elles permettent de montrer chaque champignon sous ses différents aspects.
Restez avec nous, d'autres animaux nous attendent. Nous avons des scorpions. Non, ne fuyez surtout pas, vous allez voir, c'est très intéressant. Il y aura donc aussi Jean-Louis Etienne. Et tenez, cette chanson, elle s'impose.
La vie c'est comme les papillons, d'abord chenille dans son cocon, et puis un beau jour sortir du coton. Se retrouver en plein soleil, bâiller en déployant ses ailes et s'envoler. Comme les papillons, trois petits tours et puis partir. Hey, car papillon, jamais revenir. Papillon du jour, toujours, 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 toujours l'amour. Papillon du soir. Toujours, 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 toujours mouchoir. Papillon du jour, toujours, 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 toujours l'amour. Papillon du soir, mouchoir. Les hommes, tout comme les papillons, d'abord pleuraient dans les jupons, et puis un jour quittaient la maison. Tuileaux, valet de balcon, en jardin plané, de bonheur en chagrin. Papillon du jour, toujours, 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 toujours l'amour.
Toujours l'amour, toujours l'amour, toujours l'amour.
Papillon du soir, toujours, 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 toujours mouchoir.
Toujours mouchoir, toujours mouchoir.
Papillon du jour, toujours, 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 toujours l'amour.
Toujours l'amour, toujours l'amour, toujours l'amour.
Papillon du soir, mouchoir.
Fleurs et papillons, continuez à être amoureux encore très longtemps.
Pourquoi faut-il que je sois né ouvrier ? Vous, les soldats, vous vous couvrez de gloire. En plus, vous voyagez dans le monde, vous rencontrez des insectes intéressants et vous les tuez.
Oui, mais toi, tu passes toutes tes journées avec ces superbes ouvrières.
CO2, mon amour.
Tu la vois pas, ta bière de puceron ?
Je suis peut-être ridicule, mais ça ne me dit rien de boire ce qui sort de l'arrière-train d'un autre animal. Tu me comprends ?
C'est toi qui vois.
Sur France Inter.
Zen, on se connaît depuis un sacré bout de temps.
Oui, ça tu l'as dit. Tu es né deux secondes après
oui,
moi.
Et depuis qu'on est tout petit, je passe mon temps à t'écouter te plaindre. Pourquoi tu râles tout le temps à ce point-là ? Je te rappelle quand même que nous, les fourmis, on fait la loi. On est les seigneurs de la terre.
Hé, hey, ne prononce pas le mot terre devant moi. Parce que j'ai passé ma journée à en trimballer.
Denis Chessou.
Il y a forcément quelque part un endroit mieux qu'ici.
Merci vraiment aux fourmis qui ont fait un sacré travail et qui continuent sans elles. Eh ben, nous n'aurions pas de terre non plus. Tenez, moi j'ai sous les yeux donc un ouvrage qui est paru justement au moment du bicentenaire de la naissance de Jean-Henri Fabre. C'est pour les enfants, c'est dans une collection qui s'appelle Les Petits Écolos. C'est à partir de 6 ans et ça s'appelle tout simplement À la rencontre des petites bêtes de Jean-Henri Fabre, de Luc Gommel et de Cécile Miraglio. Et c'est donc très très bien fait. Ah, un homme que vous connaissez et qui a été fortement influencé, surtout dans sa narration, par la pédagogie, par Jean-Henri Fabre, c'est Jean-Louis Étienne.
Oui, l'écologie profonde, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui avait une connaissance très approfondie des fonctionnements. Et l'écologie profonde, c'est connaître ce cycle permanent de la nature. On le parle aujourd'hui souvent d'écologie parce qu'on ne peut pas parler de tout en même temps. Dans la impression, quand on en parle, on a l'impression qu'il y a un problème, puis l'autre, puis celui-là. En fait, Jean-Henri Fabre nous a parlé de ce lien global dans lequel se trouve la nature. Et nous, avec notre accélération, nos inventions, que l'homme est un mutant surdoué, tellement on invente des choses compliquées, on est devenu des tels consommateurs et de piètres recycleurs, ce qui fait qu'on est sorti de cette écologie profonde qui était celle de la nature originelle.
Alors, il y a aussi quand même des histoires très drôles. Lorsqu'il a commencé à parler des étamines et du pistil aussi, je crois qu'il avait fait un cours de botanique à des jeunes filles.
Avignon. Voilà, Avignon. Il s'est fait virer.
Oui.
Ah oui, oui, parce qu'il a commencé à parler du pistil, la vie sexuelle des plantes.
Ah oui.
Hein, et donc, il avait un goût pour la pédagogie. Il avait un amour pour l'explication qu'on retrouve dans tous ses livres. Et donc... parler du pistil, si vous voulez, c'était pas quelque chose. Les étamines, le pistil, en fait.
Le pollen.
Oui, c'est la vie sexuelle des plantes. Et donc, il avait fait ça dans une institution oui. où il était absolument interdit de parler de sexe, même c'est pas ça, celui non. des plantes.
C'était le couvent des génisses locales et c'était une institution.
Mais c'est ce qui l'a poussé à sortir du milieu enseignant. Et donc il a dit, attends, stop, là je vais sortir de ce milieu. Il a acheté l'Armas, il s'est installé là, il a fait un jardin, il a laissé pousser la nature, il en a fait son jardin, et il a commencé à faire des livres scolaires, et il en a écrit une soixantaine. Et il avait ce goût d'expliquer simplement des choses complexes.
Attendez, là on passe devant un tas de bois, il a fait l'histoire d'une bûche.
Entre autres, oui. Ouais. Oui, chaque sujet comme ça. Ouais. Bon, c'était une époque où ceux qui étaient en milieu urbain au collège, c'était l'élite assez rare, ouais. quelques-uns. Donc, il avait le sens d'une culture populaire. Donc, chaque outil, chaque élément qui faisait partie de la vie quotidienne était l'objet d'un petit bouquin. Et à partir d'une bûche, il savait extraire effectivement d'où elle venait, comment elle se faisait, comment elle se sèche, comment on l'utilise. Comment le menuisier va pouvoir l'exploiter. En fait, c'était chaque élément de la nature était le point de départ d'une réflexion. C'est pour ça qu'il est contemporain.
Je vous présente Monsieur Charles Delagrave. Monsieur Delagrave est l'éditeur de cet homme extraordinaire qui professe ici, Jean-Henri Fabre. C'est lui que nous sommes venus voir.
Vous, Fabre ? Vous êtes venu voir Fabre ?
Eh bien oui, le professeur Fabre.
Seulement assistant professeur, Monsieur le ministre. Je suis Henri Fabre.
Enfin, je fais votre connaissance. Jusqu'à présent, vous n'étiez pour moi qu'un nom sur un manuscrit.
Et vous qu'un nom sur un mandat.
Bien modestes sont encore les mandats que je puis vous envoyer. Les ouvrages scientifiques n'ont hélas qu'un public très restreint.
J'ai lu de vous tout ce que j'ai pu trouver. Je voulais vous rencontrer. Monsieur le directeur, vous devez être heureux d'avoir un tel savant parmi vos professeurs.
Nous en sommes fiers.
Serait-il possible d'assister à une de vos expériences?
On peut essayer, mais les insectes ne savent pas le respect qui est dû à un ministre de l'Empereur.
Alors, il est mort en 1915, hein, donc il a à peine connu donc, la guerre, puis il est mort quand même très très vieux. Mais il avait des fans, il y avait Mistral, il y avait Rostand qui l'aimait.
Ah oui, Mistral aurait bien aimé qu'il ait le prix Nobel. Et il n'est pas passé loin. C'était un rebelle. C'était un rebelle. À un moment donné, le ministre de l'Éducation avait senti que ce gars était un gisement absolument génial pour faire de la pédagogie. Et il avait proposé de monter à Paris. Et Jean-Henri Fabre montait à Paris. Qu'est-ce que je vais faire là-bas, quoi ? Et donc, il avait refusé ce soutien. Il avait refusé d'entrer dans ce qui pouvait le conduire à un poste important. Même le président de la République s'était déplacé pour le voir. Enfin, c'était une sommité. Et il avait des échanges avec Darwin. Et il n'a pas adhéré à la théorie de l'évolution. C'est un peu le reproche qu'on lui fait aujourd'hui. Enfin, il faut se mettre longtemps en arrière.
C'est ça.
C'était tout à fait nouveau. Ouais. Donc, il avait ses arguments. Il disait, écoutez, Darwin, il était comme Saint Thomas, je crois que ce que je vois, je peux vous expliquer des choses que je vois, je vais aller chercher l'explication, mais là, ça m'échappe.
Là, nos cigales reviennent. Et pourquoi ? Parce que nous avons sous les yeux les 1910 mètres du Mont Ventoux, toujours avec Isabelle Glaise à l'Armas.
On arrive sur la terrasse. Oui, les cigales, on se calme. C'est embêtant parce que là, on est vraiment en hauteur d'arbre. Ah, alors là, si. Pourquoi est-ce qu'on s'est posé là ? Parce que, face aux naturoptères d'ailleurs. Eh bien, parce que l'on voit donc le Mont Ventoux. Il a ce personnage qui à l'époque n'était pas gravi par tous les cyclistes du monde entier, a été évidemment son lieu d'expérimentation. Et il a choisi aussi Sérignan parce qu'il y avait le Ventoux.
Oui, parce que en particulier depuis l'Armas, on a cette vue sur le Ventoux, ouais. qu'il affectionne parfaitement, qu'il va gravir plus de 60 fois. Et notamment, la 23e fois, ça va être un épisode rocambolesque ouais. dans lequel on va avoir des moments où Fabre et ses amis pensent que leur vie est terminée. Et puis, un lever de soleil magnifique. Et voilà, donc ça s'appelle l'ascension du Mont Ventoux. Je vous recommande la lecture, ouais. c'est un vrai voyage.
Et Fabre donc aimait herboriser, il aimait donc regarder les insectes. On sait très bien que la flore du bas et du haut n'ont strictement rien à voir. Et puis il avait son baromètre.
Oui, donc en fait, au fil de ses promenades, Fabre faisait des relevés de plantes.
Ouais.
Et du coup, quand on relève une plante, il faut donner son positionnement et avec le baromètre, l'altitude.
C'est un peu le GPS de l'époque, quoi. Donc.
Voilà, exactement. Et notamment dans cette ascension du Mont Ventoux, à chaque fois que on fait une mesure de baromètre, on va à la gourde et on boit un peu de rhum.
Ah. D'accord. Mais non, mais c'est, ça, c'est pas un protocole scientifique.
Non, pas du tout. Ah oui. Mais les scientifiques sont aussi des bons vivants.
Bien sûr.
Et du coup, ses collègues de randonnée lui réclament des petits coups de baromètre.
C'est ça. Mais il devait être quand même gentiment bourré, parce que s'il faisait 5, 6, 7, 8 relevés dans la même journée, ça devait être quelque chose quand même donc, pour redescendre après. Donc,
On peut imaginer que c'était juste quelques gouttes.
C'est ça. Quelques gouttes de rhum en gravissant ce Mont Ventoux.
Bon, alors là, on s'est un peu écarté du chemin officiel.
Oui.
Donc, on va pousser quelques arbustes et je vais vous montrer le plus bel arbre du jardin.
Bon, bah, ça ne vous en voudra pas parce que tout ce qui était un peu officiel, c'était quand même pas non plus forcément sa tasse de thé.
Il est presque à quatre pattes. Hein.
Oui, bah, c'est ça, oui. Allez, hop. Ah, bah, je peux observer là, 20 cm du sol, là, c'est bon. Ouais. Hop, là, on se relève.
Voilà, donc on se relève et là, on est face à. Un cèdre. Voilà, cèdre de l'Atlantique,
ouais.
Et qui a été planté par Fabre. Fabre, il a fait des études de mathématiques et il a fait un jardin très composé,
ouais.
Avec un grand axe. Et ce cèdre, c'est le pivot de cet axe.
D'accord.
Et au fil de cet axe, il y a des portes successives qui permettent de passer d'un espace à l'autre.
Ah, alors là, Isabelle, on est devant une grande boîte qui s'appelle la cage aux fauves. Qu'est-ce que c'est, ça ?
Alors, les fauves, ce sont des scorpions, des scorpions du Languedoc qu'on trouve dans la région. Et Fabre souhaitait comprendre leurs mœurs. Donc il va d'abord les observer dans la nature et il se rend compte que c'est un peu compliqué parce que les scorpions lui échappent. Il va en ramener dans son jardin. Ça va être aussi compliqué. Il va essayer dans son laboratoire sous les cloches à fromage. Ça ne fonctionne pas. Donc du coup, il construit cette grande boîte en verre qui s'ouvre par le haut.
Ouais.
Et les scorpions, c'est des acrobates. Avec leur gourdin, ils ont capacité de grimper.
Ah,
donc il va enduire les montants qui ne sont pas en verre pour pas que les insectes ne grimpent.
Ouais.
Et du coup, il va installer un lit de sable, des morceaux de peau de fleurs. Et du coup, il va observer ces animaux et se rendre compte qu'ils sont extrêmement frugaux.
On referme.
Ils mangent très peu.
Oui, d'accord.
Et par contre, ils adorent se nourrir après un combat. Et en fait, ils mangent leurs adversaires, qui peuvent être des scorpions, des mantes religieuses. Et par contre, si c'est un criquet, ça ne les intéresse pas.
Bon, et ben on va vous laisser. Hein, on va vous laisser vous bagarrer entre vous. Peut-être une petite mante religieuse, là, je ne sais pas du tout, qu'on appelle aussi la prie-dieu, hein, celle-là. Et oui, bien sûr, quand on la voit. Allez, salut les scorpions. Hop. Le bassin au nénuphar, quelle merveille. Les roseaux aussi.
Ici, on concilie agrément et entomologie, parce qu'effectivement, on a nénuphar, roseaux, on a même des lotus. Et donc, on est sur le point haut du jardin, pile dans son axe. Et c'est vraiment un havre de fraîcheur. Et on a beaucoup de grenouilles un peu plus tôt en saison. Et beaucoup de, voilà, une certaine musicalité.
Un grand savant qui pense en philosophe, voit en artiste, sent et s'exprime en poète, c'est ce que disait Jean Rostand de Jean-Henri Fabre. Alors allez à l'Armas, hein, bien sûr c'est ouvert, allez-y avec vos enfants, donc à l'Armas, nous sommes à Sérillon-le-Comtat dans ce très beau Vaucluse, et puis, juste en face vous avez le Naturoptère, très intéressant aussi, parce que là c'est ludique, c'est informatique, c'est pédagogique, donc c'est le bâtiment qui est juste en face, c'est le Naturoptère, vous vous régalerez. Si vous voulez compléter aux éditions du Pommier, Jean Henri Fabre, l'inimitable observateur, une biographie d'Henri Gourdin. Il ne me reste plus qu'à remercier Alexandre Chenet qui a mixé donc cette émission, Camille Blanès qui l'a réalisée, qui l'a colorisée de A jusqu'à Z, Thierry Dupin qui a choisi les disques. La semaine prochaine, on va aller avec un homme aussi très très naturaliste, il s'agit de Gilles Clément. Oui, donc nous allons rencontrer cet homme chez lui dans son très beau département de la Creuse, dans sa vallée qui l'a énormément inspiré, dont il a besoin. Donc la semaine prochaine avec Gilles Clément dans la Creuse. Les podcasts, vous en avez l'habitude, justement, c'est le moment de réécouter Bestiole. Mais oui, il y a des insectes dedans aussi, donc pour les 4-8 ans et... et jusqu'à l'âge de Jean-Henri Fabre, à mon avis. On peut écouter Bestiole, jusqu'à 95 ans, et même plus, ça devrait être tout à fait possible. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de dimanche. Puis si vous le souhaitez, il doit y avoir du Instagram, du LinkedIn, etc. Plein de petites choses comme ça aussi. À très bientôt.